6h22, en ligne avec nous, Bénédicte Chéron, historienne, chercheur au CIRIS, Université Paris-Sorbonne et spécialiste des armées. Bonjour madame.
Bonjour.
Emmanuel Macron doit présenter ce matin à Toulon ses vœux aux armées. 6 mois après la démission du chef d'état-major des armées, le général de Villiers, est-ce que les blessures, selon vous, sont cicatrisées ?
Alors évidemment, quand un militaire français se lève tous les matins pour aller travailler ou est en opération extérieure, ou intérieure d'ailleurs pour l'opération Sentinelle, il ne parle pas de la démission du général de Villiers tous les jours, il fait son travail. Il n'en demeure pas moins que beaucoup de retours montrent que à tous les échelons de la hiérarchie, et peut-être plus encore en bas de la hiérarchie et auprès des sous-officiers, cette démission elle reste dans les mémoires parce que ça a été vécu comme un moment de plus où les militaires ont eu l'impression finalement que les responsables politiques, et donc la nation avec les responsables politiques, n'avaient pas forcément conscience de ce qui faisait l'engagement qu'ils ont pris en acceptant de servir la nation par les armes.
Il y a un besoin de reconnaissance fort pour les troupes.
Il y a un besoin de reconnaissance fort parce que beaucoup de données dont on dispose pour essayer de comprendre comment les militaires vivent leur fonction au sein de la nation montrent que en fait ils se savent aimés parce qu'effectivement les armées ont une très bonne image, hein, on le sait, 88% des Français ont une bonne ou une très bonne image de l'armée, mais en revanche ils ne se sentent pas forcément compris, ils n'ont pas l'impression que leurs concitoyens et en tête de leurs concitoyens les chefs politiques savent ce qui fait au jour le jour la force de leur service auprès de la nation.
Est-ce que la loi de programmation militaire qui doit être présentée début février en Conseil des ministres peut aider à redonner cette reconnaissance ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que la question du budget et des moyens qu'on donne aux armées, elle est cruciale dans cette question de reconnaissance. Le fait que l'année 2017 se soit finalement terminée dans de bonnes conditions budgétaires après de très grosses inquiétudes pendant 6 mois joue un rôle. Le fait que le budget de la défense va être augmenté de 1,8 milliard d'euros en 2018, puis de 1,7 milliard par an jusqu'à la fin du quinquennat joue un rôle. Pour autant, on sait que dans la loi de programmation militaire, il va y avoir encore des coupes sombres, il va y avoir des difficultés à boucler cette loi de programmation militaire parce que le retard accumulé est d'une telle ampleur que ces augmentations sont insuffisantes pour que les armées puissent continuer à remplir leur mission au même rythme.
Parce qu'on sait qu'en fait que rarement les lois de programmation militaire sont intégralement respectées, c'est ça, hein ?
Alors d'une part, les lois de programmation militaire sont rarement intégralement respectées. Alors on peut faire crédit au président de la République et à son gouvernement d'avoir l'ambition de respecter celle-ci. Mais en plus, on sait qu'à ces augmentations budgétaires promises, il va falloir intégrer le surcoût des opérations extérieures qui est très conséquent chaque année. Hein. On était à des sommes importantes depuis quelques années, en particulier depuis les engagements opérationnels sous le quinquennat de François Hollande. Or, ce surcoût des opérations extérieures va dévorer progressivement toutes les hausses budgétaires annoncées.
Précisément, Bénédicte Chéron, est-ce que la France a les moyens de ses ambitions quand on parle de ses opérations extérieures, je pense à Barkhane ou en Irak avec Chammal?
Alors c'est vraiment la question, hein, parce qu'on oublie souvent de préciser qu'une opération extérieure, c'est pas forcément une obsession d'un chef de l'État. Ça peut le devenir, mais ça ne l'est pas forcément. En fait, une politique de défense, ça se pense sur le long terme, en se posant la question des menaces et des moyens qu'on est prêt à mettre pour répondre à ces menaces et pour que la France tienne sa place dans le monde. Donc en fait, si on pense d'abord dans cet ordre-là, normalement, le budget doit être adapté à un projet politique qui est celui de la place de la France dans le monde. Or, on est arrivé à un point où on est obligé d'adapter les ambitions qu'on a pour la France dans le monde à des contraintes budgétaires.
Quels sont les efforts en dehors des opérations extérieures qui doivent être faits ?
Alors, il y a bien sûr les opérations extérieures, mais en fait, c'est toute la vie des soldats qui est concernée. Mais on se rend compte, encore une fois, il y a des instances au sein des armées qui ont publié des rapports, et notamment un rapport l'été dernier qui montre que vraiment pour les soldats, le cœur de leur inquiétude, c'est les moyens qu'on leur donne pour remplir leur mission quand ils sont en opération. Et donc, bien sûr, il y a la question de la conciliation avec la vie de famille qui est extrêmement importante, hein, et la ministre des Armées a présenté un plan famille cet automne qui prend en compte cette préoccupation. Mais encore une fois, vraiment, c'est le moyen de remplir leur mission que les soldats demandent.
Un mot, Bénédicte Chéron, sur le service national universel à présent. C'est une promesse d'Emmanuel Macron, un mois de service universel. Est-ce que cette promesse, aujourd'hui, est tenable ? et va être retenu. C'est aussi une des questions.
Pour l'instant, on a peu d'informations, hein, seulement celles qui filtrent et qui montreraient effectivement qu'on passerait d'une affirmation un peu fracassante sur un service militaire obligatoire d'un mois pendant la campagne à ce qui serait davantage un parcours citoyen. Rien ne dit d'ailleurs que c'est cette option-là qui sera finalement retenue. Ce qui est sûr, c'est que pour les armées, c'est quelque chose qui peut être préoccupant et pour l'ensemble des concitoyens, hein, parce que c'est pas seulement la question des militaires, parce que si on demande aux militaires d'encadrer massivement un service national universel qui en fait n'a aucune fonction militaire, c'est-à-dire ne vise pas à ce que les jeunes Français apprennent à servir la nation par les armes, ça veut dire qu'on demande aux militaires de jouer massivement un rôle qui n'est pas le leur, qui est un rôle socio-éducatif, un rôle d'intégration, et que une fois de plus, on montre qu'on ne comprend pas profondément quel est le sens de leur engagement et de leur mission.
Et précisément, Bénédicte Chéron, on parle de la Grande Muette. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires doivent s'exprimer ?
Alors les militaires, ils se sont toujours exprimés. On a tendance un peu à avoir une lecture qui est encore très marquée par les années de repli qui suivent immédiatement la guerre d'Algérie en France et qui ont été traumatisantes pour la relation entre les militaires, la nation et les politiques en particulier. Les militaires, ils écrivent, ils s'expriment. Le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, a dirigé un livre qui est sorti hier en librairie qui s'appelle Le Soldat. Donc ils écrivent, ils pensent leur métier. Ce qui est sûr, c'est que des historiens l'ont montré, d'autres que moi. C'est dans les moments où on laisse les militaires dans les limites de leur fameux devoir de réserve, qui n'existe d'ailleurs pas en tant que tel dans les textes, où on les laisse s'exprimer sur ce qui fait le cœur de leur engagement et sur leur métier, que la France est la plus efficace dans la guerre et dans ses opérations.
Merci beaucoup Bénédicte Chéron, historienne spécialiste des armées, d'avoir été en ligne avec nous ce matin dans le 5-7 de France Inter. Merci.